Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bah, j'hésite à ramener The Blaze d'ailleurs.
Vous les connaissez?
Non. Quand on dit ramener, en général, c'est les ramener dans le son d'après.
Ah, ok. Podcast avec The Blaze. Au calme.
À chaque fois, on dit ouais, on a ramené machin. Ils sont en mode ah ouais, vous êtes potes avec. J'étais là, non, non, on l'a ramené en mode on en a parlé quoi. Salut, c'est Louis Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. Et bienvenue dans cet épisode spécial du son d'après. Je suis Louise et comme toujours, je suis accompagnée de mon meilleur binôme, j'ai nommé Clément. Bonjour.
Salut, salut.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien. J'adore ces formats formats de podcast.
On est aujourd'hui dans un épisode spécial, bien sûr, parce qu'on est avec une invitée de qualité. C'est Ambre. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le son d'après. On
merci
est
bien.
De te recevoir.
Merci, merci.
Pour te présenter en quelques mots, t'es photographe, notamment dans le milieu de la musique, mais pas que, et aussi de la danse, et tu réalises aussi des clips.
Tout à fait.
T'as notamment travaillé pour faire un peu de name dropping avec Johanna, qu'on aime beaucoup ici, avec aussi Soso Maness, SCH, Niska, Hamza, Davinor, Le Juice, Jiménez, et je vais citer que parce que sinon ça va être un peu long. Et en gros, bah, dans ce podcast, nous on reçoit souvent des personnes qui travaillent dans le milieu de la musique, mais je crois que c'est vraiment la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a vraiment un pied dans la direction artistique et l'aspect visuel. Okay. Donc on a hâte de discuter de tout ça avec toi, mais aussi forcément de ton parcours d'auditrice et de mélomane. Mais avant de commencer à discuter, s'il y a des gens qui découvrent tout juste le son d'après, Clément, est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ce podcast?
Tout à fait. Le son d'après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort un lundi sur deux et où globalement on partage nos kiffs musicaux du moment en espérant vous aider globalement à alimenter vos playlists. Aujourd'hui, du coup, on a demandé à Ambre de ramener deux tracks qui sont chers à ton cœur et tu vas nous dire pourquoi. Et nous, on a chacun ramené un morceau, que tu nous as inspiré, ou en tout cas sur lesquels on a envie de discuter avec toi, en espérant soit qu'on te les fasse découvrir, soit au moins déjà qu'on te les fasse apprécier. Enfin,
ok, trop cool.
On verra, tu nous diras ce que tu en penses. Tu as le droit d'être honnête.
Tu as le droit de dire que tu détestes.
C'est nul.
Exactement. C'est ça aussi, on aime bien débattre de la musique, donc sens-toi libre. À ce niveau-là.
Ouais. De nous dire que nos choix sont nuls.
Let's go.
Et puis, je le rappelle avant, mais du coup, il va certainement y avoir un certain nombre d'artistes qui vont être cités d'artistes, de clips, de références qui vont être. Vous pourrez retrouver tout ça dans la description du podcast. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez évidemment vous abonner, penser à ce podcast, à nos Instagram respectifs. On donnera évidemment aussi tout dans les notes du podcast. Et puis vous allez pouvoir retrouver les 4 sons que vous allez écouter aujourd'hui dans la playlist du podcast. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais.
On peut donc commencer.
On peut commencer à discuter carrément.
Trop bien. Eh bien, Ambre, la première question qui est un peu toujours la même qu'on pose à nos invités, c'est un peu genre, c'est quoi tes premiers rapports à ton premier rapport à la musique, tes premiers souvenirs musicaux?
Mes premiers souvenirs musicaux. Alors, moi, j'ai les parents divorcés depuis que je suis bébé. Mmh. Et les deux sont très, 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 très mélomanes. Donc, j'ai pas de premiers souvenirs, en fait. Enfin,
T'en as plein mélangés, quoi.
C'est vraiment depuis que je suis née, on écoute énormément de musique d'un côté et de l'autre. Ils ont des styles très, très différents. Mon père est très, très hip-hop, très, un peu moins R&B, mais ça, c'est plus mes tantes. Après, avec une culture hyper ouverte aussi, très rock, etc. Ma mère est plus chanson française, musique du monde.
Ouais, donc t'as baigné dans un univers musical
vraiment,
hyper tôt.
Vraiment, vraiment.
Ouais, et puis éclectique en plus.
Hyper éclectique, coup, ouais. c'est la chance que j'ai eue.
Et est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué quand t'étais petite
Les premiers qui te marquent, Les premiers que tu retiens, quoi
Les premiers que je retiens vraiment... quand j'étais toute petite, je faisais des fixettes sur des artistes hyper nuls. À 4 ans, j'étais fan de Florent Pagny, genre. Trop bizarre. Ouais. Mais après, c'était beaucoup les artistes que mes parents, ils écoutaient. Donc mon père, énormément de Bob Marley, énormément de Dr. Dre. Un peu de R&B avec mes tantes, on dansait quand j'étais toute petite. Ma mère, énormément de Björk, Lassa, musique espagnole, Claude Nougaro, très grande fan aussi, ma mère. Donc franchement,
c'est hyper éclectique.
C'est hyper éclectique, ouais. Vraiment. C'est hyper, hyper varié.
Ok.
Voilà.
Donc ça, en fait, c'est hyper naturel depuis le début.
Ouais.
Que la musique est présente dans ta vie, quoi.
Exactement. Après, j'ai une cousine que je voulais copier. Et j'ai toujours un peu marché dans ses pas jusqu'à mes 12 ans à écouter énormément ce qu'elle écoutait aussi. Franchement, j'ai pas de premiers souvenirs. J'ai toujours grandi dans énormément de musique, écouté énormément de musique super différente. Je veux dire, c'est à la limite le premier CD que j'ai demandé à avoir, vraiment. C'est quand j'avais 7 ans et c'était le CD de Amel Bent. J'étais trop fan d'Amel Bent. J'avais 6 ans. C'était 2005, je crois. Et c'était le premier CD que j'ai vraiment demandé à avoir. C'était Amel Bent, Vise à la Lune, 5 piges. Trop fan. Et trop bon CD. En plus, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Je suis en mode, waouh. Le pire, c'est que je me souviens des musiques parce que j'écoutais en boucle,
Souvent, c'est ça. C'est le morceau que tu as écouté dans cette période. Mais les lyrics, tu les connais par cœur.
Ouais, vraiment grave. J'ai un vrai souvenir tactile avec les CD. Je demandais à chaque fois à mon grand-père... des CD à Noël, c'était le seul cadeau. Je demandais le CD que je voulais le plus dans l'année. Du coup, j'ai beaucoup de CD chez moi. Et j'ai plus ce rapport là du tout maintenant à la musique. Mais c'est vrai que c'est des CD où je les connais vraiment par cœur. Alors que maintenant, avec le stream.
Ouais, c'est ça. T'as plus ce même rapport à l'objet. Et même la valeur de l'album en lui-même, quoi.
Tu pouvais écouter le même CD pendant 3 mois en boucle à fond.
Et est-ce que, du coup, tu vois, tu parlais de tes parents, du fait qu'ils ont, eux, plein d'influences musicales et tout. Est-ce que toi, tu te souviens vraiment du premier truc qui t'a marqué, genre peut-être plus loin que petite, tu vois, mais genre ado, où t'es en mode, ça va être ma musique, c'est la musique
c'est
que
ça.
Je kiffe, tu vois.
C'est où t'as l'impression que tu te détaches vraiment de ce qu'écoute ton entourage.
Je pense que ça s'est vraiment fait en plusieurs temps. Après, mon père, en vrai, on écoute toujours un peu les mêmes trucs. J'arrive chez mon père, il est en mode, t'as écouté le dernier single de PNL? Je suis en... ouais, c'est marrant. Mais, je pense que ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu Kid Cudi quand j'étais en 6e. Vraiment, je me suis dit, c'est incroyable. Et ça, mon père écoutait pas trop pour le coup parce que c'était un peu plus niche pour. Parce que c'était un peu plus un puriste à l'époque. Kid Cudi, énorme gifle. Le dernier album de Diams aussi, quand j'étais en CM2, où elle parlait de sujets super deep.
Ouais, ça, je me souviens, moi aussi. Vraiment. C'est vraiment là où je crois que je m'apprends Diams.
Tu te le prends, t'as 10 ans, t'es en mode waouh, qu'est-ce que c'est la vie. Et après, en vrai de vrai, c'est 2015, avec l'arrivée de la trap, où je me suis dit, je crois que c'est ce que j'ai voulu écouter toute ma vie, en mode vraiment. Énorme gifle de toute façon musicale cette année-là, on va en reparler. mais vraiment l'arrivée de la trap, j'ai plongé dedans et voilà, hein, ça s'est jamais arrêté.
Encore aujourd'hui, quoi.
Encore aujourd'hui.
Bah, je pense que c'est plutôt une bonne transition, à mon avis, pour que tu nous parles du premier artiste du jour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu as choisi et pourquoi ?
Young Thug. Ça
sent la fatalité, mais tu sais, vraiment, c'était l'élu.
Ouais, c'était vraiment l'élu. Déjà, moi et ma cousine, on écoutait Lil Wayne depuis qu'on était très petites. Donc, forcément, en découle Young Thug. Mais Young Thug, que dire en vrai ? Je sais pas, pour moi, c'est vraiment le goat, la manière de travailler la voix, ce genre de voix aussi. Très particulière, la manière dont il a inspiré aussi la trap française après. Avec Hamza, par exemple, t'écoutes son dernier album, en vrai, t'écoutes trop Young Thug dedans, enfin dans les inspis, tu vois, je suis très fan d'Hamza, mais tu sens vraiment la manière de...
Bah comment lui aussi, ça l'a muté, quoi.
Ouais, grave. Et je pense qu'il nous a tous traumatisés. Moi, j'ai choisi Young Thug parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué sur cette année-là, mais j'aurais pu en vrai en dire... un nombre incalculable d'autres. J'aurais pu dire Travis Scott, j'aurais pu dire Drake, j'aurais pu dire trop de gens, même des trucs niches. Et en fait, c'est une année où vraiment... moi, j'étais en seconde, je me souviens. Et je passais mon temps sur SoundCloud à diguer les trucs les plus niches que personne connaissait. J'écoutais beaucoup plus de rap américain à l'époque que j'en écoute maintenant. Je suis un peu perdue maintenant. Mais vraiment des trucs à 100 vues sur SoundCloud, de rappeurs... que personne connaît ou qu'on pop et qu'on disparu, G-Stash, Leo Dimaco, tous ces mecs à l'ancienne. Mais pour moi, après, je préfère Young Thug parce que tout le monde va le connaître. C'est pour ça que je l'ai choisi en élu, mais j'aurais pu en choisir vraiment plein d'autres.
Et du coup, on écoute peut-être ?
Ouais, je pense qu'à mon avis, on peut certainement écouter. Et moi, je suis curieux que tu nous dises peut-être le pourquoi de ce morceau-là. Et puis après, on continue notre discussion.
We got London on the track. Honey, man, dropped on the head of any nigga wanted, man. Poppin' your Zanny, I'm fast, I'm so fast, I'm so faster than Sunny, man. Woo! True to man, true to man, true to my nigga, true religion, Buddha, man. Woo! My money's that tall as ludicrous, I throw and I swear I'ma shoot with it. I just hit for now, bird, what I'ma do with it? Pull up on the curb, then you hop out and be through with it. I'm so fresh like this detergent, if you not fresh, you so through with it. Point, but you know you so doomed. You know you so doomed. I swear I'm so lost with no clue. Don't know what to do. Sunny man. Woo! True to man, true to man, true to my nigga, true religion, Buddha man. Woo! My money's that tall as ludicrous, I throw and I swear I'ma shoot with it. I just hit for now, bird, what I'ma do with it? Pull up on the curb, then you hop out and be through with it. I'm so fresh like this detergent.
C'était Young Thug avec With That en featuring avec Duke.
Le gourou.
Le premier morceau choisi par Ambre. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec la trap? Parce que tu nous as dit, ok, c'est un truc qui m'a marqué de ouf et tout. Qu'est-ce qui te marque dans cette musique qui fait que tu te butes à ça, quoi?
Particulièrement dans ce morceau, du coup, ouais, ça m'intéresse. Ouais.
Déjà, ce genre d'instru, moi, je les aime trop. Ce petit ouais. piano, là, c'est des genres de prod que tu retrouves avec Love Me de Lil Wayne et Drake et tout. Enfin, ce genre de prod, elle me touche trop. Mais après, la manière dont Young Thug a de... Je sais pas comment définir. Après, tu sais, c'est de la musique en mode ça te touche, ça te ouais. prend, c'est dur de... Qui peut poser comme ça? C'est trop bizarre. Tu vois, y a pas... en fait, il n'y a pas de règle. Tu peux pas dire qu'il découpe parce qu'il découpe pas vraiment. Mmh. Il chante, il utilise l'autotune à la perfection. C'est une maîtrise totale, c'est l'excellence.
Mais je te rejoins sur l'interprétation, je trouve qu'il y a, en fait il amène, moi je pense que c'est ça à l'époque aussi, parce que je me souviens très bien que cet album je l'ai assez martyrisé aussi quoi. Je pense que c'est vraiment le moment aussi où j'en avais déjà entendu pas mal parler d'Young Thug, mais c'est là où je me le prends vraiment, et il a une espèce de folie dans l'interprétation. Tu sais jamais trop où il va aller en fait, et c'est ça qui est intéressant.
Exactement. Et j'aime bien, par rapport à des morceaux comme Lifestyle plus anciens et tout, qui sont plus joyeux, moi j'aime bien aussi la fracture et un peu la... Pas la tristesse, mais je sais pas, les notes elles sont plus mélancoliques.
Oui, il y a une noirceur, ouais.
C'est mes morceaux préférés en général de Young Thug, plutôt que quand il fait des trucs happy. Je kiffe aussi, je vais écouter, mais après ça...
C'est peut-être moins ce que tu vas retenir, quoi.
Ouais, ce morceau-là, je l'ai... En général, quand je kiffe des morceaux, je les écoute en boucle, mais celui-là, c'était abusé, c'était trop.
Bah, c'est vrai qu'et puis Barter 6, l'album ouais, dont était extrait le morceau, c'est globalement, je trouve que dans mon souvenir, il y a vraiment cette ambiance qui se décline sur les 13 morceaux, sans être trop redondant dans mon souvenir. Donc c'était un grand album, ouais. En tout cas, je te rejoins là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'as pensé, Louise, du coup?
Moi, je suis pas trop trap. En fait, je crois que j'ai vraiment loupé le train. je regarde à 800 km, je suis en mode, j'ai tout loupé, toute cette session-là. Et du coup, j'avoue que, tu vois, genre, comme ça, je kiffe, j'écoute le morceau, mais je pense que je me le prends pas.
Okay.
Comme peut-être tu peux te le prendre, ou il y a un truc où je... Je sais pas trop, en fait, juste c'est pas forcément de la musique qui me parle, et je sais que j'ai écouté plusieurs fois. Enfin, là, tu vois, je regardais un peu les albums de Young Thug qui sont sortis depuis. Il y en a beaucoup que j'ai essayé d'écouter et que je me suis dit, genre, j'ai l'impression d'écouter le même morceau tout le temps, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un truc, mais ça, je pense c'est un truc de non-initié, tu vois.
Okay.
C'est un truc de, en vrai, je connais pas la trap, je connais pas forcément, tu vois, genre les.
Ouais.
Ce qui fait qu'un bon morceau de trap est un bon morceau de trap, tu vois. Et donc, du coup, je pense que moi, c'est. Je suis en mode, je sais pas où est-ce qu'il faut que je regarde.
Ça génère pas forcément de l'émotion, quoi. C'est surtout ça, quoi.
Je l'attrape, c'est beaucoup, surtout à cette époque, c'était aussi vraiment ce délire d'interprétation, etc. J'ai un vrai l'impression de dire que c'est un peu une musique aussi, je pense, de droguer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai rapport avec ça. En vrai, tu peux pas parler de trap sans parler de consommation, etc. Ça change quelque chose à la manière dont tu vas écouter des morceaux.
Et dont même tu le reçois peut-être au moment où tu le découvres. Dont même tu le reçois,
etc.
Et du coup, tout à l'heure, tu disais que ouais, t'étais vachement à diguer du son sur SoundCloud et tout à l'époque. Donc c'est ça, t'étais en seconde, c'est ça que
ouais,
tu disais?
Ouais, j'étais en seconde entre mes 15 et mes 18 ans. J'étais beaucoup, beaucoup sur SoundCloud. Une énorme banque sur SoundCloud, je sais plus du tout. Mais de tous les sons que j'écoutais à l'époque et des trucs archi, archi niche, quoi.
Ouais. Mm-mm. Et du coup, c'est quoi ta manière de consommer de la musique aujourd'hui? Genre, tu parlais du stream tout à l'heure, est-ce que t'es...
Elle a grave changé, elle a changé aussi parce que l'industrie a archi changé, je pense. Déjà, j'écoute un peu moins de musique en vrai, quand même. J'écoute un peu moins de musique parce que je commence à avoir un peu ce truc. Déjà, je travaille dans le rap. Après, particulièrement avec le rap français, je sais qu'il y a les artistes que je vais écouter, mais je vais plus chercher parce que j'ai un peu ce truc aussi de... Ça fait 2-3 ans que je suis plus étonnée, tu vois.
Ouais.
J'ai plus d'énormes coups de cœur, à part sur des artistes précis que j'écoutais depuis bien avant, qui vont sortir des albums que je vais me prendre. Mais on est vraiment dans la réinvention plutôt que dans l'invention pure, tu vois. Typiquement en mode, là je suis trop contente de l'album qu'a sorti Hamza, je suis trop contente de son démarrage, parce que pareil, Hamza, j'ai écouté en 2015 quand il venait de sortir H24 sur Haute Culture et c'est cool, mais tu sais, je me souviens de la première fois où j'ai entendu Hamza, où vraiment j'étais en mode c'est quoi, c'est un troll, qu'est-ce que je comprends pas, et 3 écoutes après je suis complètement accro à l'album. Je ressens plus cette sensation là avec les artistes de maintenant, tu vois. Je ressens pas ça avec la Jersey, je ressens pas ça, enfin tu vois, ça me touche un peu moins. Je respecte, hein, y a des artistes que je kiffe et tout, mais c'est vrai que j'ai plus ce truc de diguer pour vraiment découvrir un truc hyper hyper nouveau, parce que je ressens moins justement une énorme nouveauté dans les propositions maintenant. Et puis après, je sais pas, des fois, enfin, j'écoute aussi des podcasts, des trucs. Oui.
Voilà. Le temps imparti, il s'est juste réparti différemment. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et t'as la sensation quand même que depuis que tu travailles du coup dans cette industrie, en tout cas que tu te retrouves notamment à clipper pour du rap, que ouais, ton oreille, elle a évolué à cause de ça?
Mon oreille, elle a évolué. Je sais pas si c'est une question d'oreille qui évolue. Je pense quand tu connais aussi très 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 bien une industrie, ouais, t'as plus cette naïveté que tu vas avoir sur des artistes émergents, ou quand t'as passé soit tes années à diguer, soit à écouter vraiment tous les projets qui sortent, que ce soit par rapport au travail ou à la passion, au bout d'un moment, ouais, ton oreille elle perd un étonnement et tu vas écouter un truc et tu vas directement sentir, ah ouais, le mec il est en studio, il a donné ça comme ref à son beatmaker. Tu comprends toutes les inspies, donc ouais, c'est en mode de... Je dis absolument pas que c'est mauvais ou quoi. Je pense qu'il y a là les artistes de la nouvelle génération qui sont trop chauds, tu vois. La Lune, Rally, La Fève, tout ça. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté. Mais je sais pas. Ouais, j'écoute un peu moins. Hein, un peu moins qu'avant. Ça veut pas dire que j'aime plus le rap, etc. C'est vrai. Mais c'est juste que, ouais, je dis que plus je m'intéresse moins, en fait. Si ça me tombe dessus, tant mieux.
Ouais, c'est ça.
La Fève, ça m'a pris de ouf. SO La Lune, il m'a pris de ouf.
Tout simplement moins le temps, mais en fait, de
diguer. Ouais, moins le temps et moins l'envie aussi de me dire bon, vas-y, là je vais aller voir, je vais aller nicher un peu qu'est-ce qui se fait en ce moment. Ça me tombe dessus parce que ça prend, je prends, mais sinon ouais.
Et du coup, pour revenir à cette période où peut-être où tu découvres Young Thug, t'en es où toi personnellement de tes envies potentiellement? Est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de travailler dans la photo, dans la vidéo? C'est des choses qui te parlent déjà? Est-ce que le rapport à la musique, il est déjà là, justement dans un objectif peut-être plus professionnel, ou...
Alors à cette époque-là, en gros, moi j'étais en seconde, je venais de rentrer au lycée dans un bac littéraire en option cinéma. J'étais un peu paumée en troisième, je savais pas où aller, je savais que j'avais beaucoup plus une patte littéraire. Il y a une meuf de mon collège qui m'a dit « Ah, il y a cette option-là dans ce lycée ». Et j'ai eu la chance de tomber sur un prof génial qui vraiment donnait sa vie dans l'option pour vraiment nous transmettre la passion du cinéma, etc. Et il a vraiment bien fait son boulot. On faisait plein de petits tournages entre nous. À côté, j'étais inscrite... moi, je viens de Rennes. J'étais inscrite dans une association... ça, c'était en première. Je me suis inscrite dans une association de jeunes cinéastes. Donc, en fait, on faisait plein de petits tournages amateurs de gens mineurs. Tu sais, on se retrouvait entre nous. On avait entre... 13 et 18 ans, si quelqu'un avait un projet, moi j'ai écrit un court métrage de 3 minutes, on était là, ah, bah vas-y, moi je veux bien essayer d'être élève, je veux bien essayer d'être cadreur, je veux bien essayer d'être chef op, tout ça, tout ça. Donc on a vraiment commencé avec ça, mais en essayant vraiment quand même de le faire bien, de le faire vraiment bien, mais c'était plus des courts métrages à l'époque, pas du tout du clip. Et j'ai commencé vraiment plus dans la technique. À la base, moi, j'ai une formation plus dans la lumière et dans l'image en général. Et j'ai été prise à 18 ans en BTS audiovisuel sur Paris. Donc, je suis montée sur Paris. J'ai eu la chance d'avoir été prise, d'avoir les bourses et tout. Donc, j'ai pu monter sur Paris. Sauf que, bah, du coup, tous les gens avec qui je faisais mes tournages, ils n'étaient plus là. Et moi, ça me manquait parce que j'aimais trop faire mes petits tournages. C'était ma petite zone artistique que j'aimais trop. Et il y avait un mec dans ma classe, mais qui était en option montage, qui est toujours mon monteur à l'heure actuelle, Juan, qui faisait des street clips tout seul. Il avait acheté sa cam et il partait clipper les mecs de son quartier. Donc je me suis dit, vas-y, de toute façon, j'ai personne, je vais faire la même chose. C'était à Saint-Denis, donc il y a plein de rappeurs.
Ouais.
De quoi ?
C'était qui tes premiers street clips ? Tu te souviens un peu ?
Il y avait des mecs de Rennes, il y avait des mecs de ma ville. Le premier, c'était un groupe de ma ville. Premier clip qui s'appelait La 7ème à l'époque. Après, il y a eu un mec qui s'appelle KRL, pareil, de Rennes. Après, il y a eu des mecs de Paris. Un mec qui s'appelle Ojimo Kunzi. Il y a eu un mec qui s'appelle Chinois. J'étais partie clipper toute seule avec ma petite cam à SFC. C'était marrant. et ouais, plein de petits trucs, en fait, où je faisais tout. Hein. J'arrivais avec ma cam, cadrage, montage, étalonnage, tout. Mmh. Et en même temps, en BTS, j'ai commencé mes... En fait, je séchais tout le temps les cours parce que le BTS, c'était vraiment une formation télé. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas... ouais, ça me plaisait pas. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'électricienne, là, pour le coup, sur des gros plateaux de rap.
Ouais.
Donc vraiment rentrer dans le... Je travaillais avec NVZ à l'époque, Nicolas Noël, son chef op, etc., qui me prenait un peu sur les tournages. Donc là, j'ai vraiment mis le pied dans la vraie industrie du rap, mais en tant que techos.
Et du coup, c'est quoi électricienne ?
Électricien, t'es purement technicien. T'as ton chef électro qui lui-même... On sait que les tournages, il y a une énorme hiérarchie. Ouais, hein, c'est vraiment... Tu délègues. Électricien, c'est... tu fais les installations lumière, en fait.
Okay.
T'es les petites mains qui installent toute la lumière, mais t'as pas cette partie créative comme va pouvoir l'avoir le chef op. Même quand t'es chef électro, tu peux avoir une petite partie créative, mais vraiment liée à la technique. Mais électro, tu fais ce qu'on te dit. Mais c'est intéressant. Okay. Enfin, de toute façon, on passe par là pour les réels.
Ouais, faut passer par là pour commencer à monter les échelons un peu. Quoi.
Après, ça, il n'y a pas de règle. Enfin, okay. En vrai, c'est pas forcément vrai. Il y a plein de réels qui n'ont aucune formation technique.
Oui, en fait, c'est ça. C'est que c'est pas lié directement au métier de réalisateur. C'est-à-dire que là, c'est cool. Enfin, ça me fait marrer. Enfin, en vrai, j'ai démarré comme toi. C'est-à-dire que j'ai été aussi électro. Moi, ça a été
trop
un peu
cool.
Les vrais premiers métiers que j'ai fait sur les plateaux de ciné. Bah, dur et en même temps passionnant parce que, en fait, t'es vraiment sur les plateaux. Mm-mm. Du coup, t'es au contact de ce quoi t'as envie de faire.
Oui,
et en vrai, moi, je sais que ça m'a ouvert à toute une... À la lumière. Vraiment au travail de la lumière et qu'est-ce que c'est vraiment.
Bah, c'est hyper important. Moi, ça me sert énormément d'être passé par là aujourd'hui et même d'avoir pu faire même un peu cadreuse ou des trucs comme ça. C'est que quand maintenant, sur des gros plateaux de tournage où je vais gérer des gros budgets et des équipes entières, j'ai le vocabulaire technique pour parler précisément à mes chefs de poste. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que je vois... en fait, moi, je vais donner une idée créative floue. Mon chef op va dire l'idée créative au chef élec en mode avec le proche. Le chef élec va vraiment déléguer pour la partie plus technique. Mais même en tant que réal, je pourrais lui dire juste ça et après dire ah, ça me convient pas, mais pas savoir pourquoi ça me convient pas parce que je suis pas passée par là. Alors que là, je sais que si un proche, il est placé de telle manière, je sais pourquoi, je sais quel effet, je sais quand il y a une lumière qui m'aime que j'aime pas, d'où savoir repérer d'où elle vient, de quel proche, donc je vais parler à mon chef op en mode ça, tu me le bouges parce que truc et tout, donc c'est plus fluide et c'est plus précis sur certaines choses, donc ça m'aide énormément.
Je te propose du coup qu'on passe au son d'après, hein.
Ouais.
Je pense qu'on a bien discuté là.
Je pense que c'est pas mal.
À mon tour.
C'est un bon enchaînement.
Allez. La transition est toute faite parce que je te disais justement que ça me fait rigoler parce que je vois en tout cas pas mal de points qu'on peut avoir en commun, notamment sur le métier d'électro. Et j'ai un peu la même histoire concernant un prof tu vois, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Donc pour faire le... Comment j'ai choisi mon morceau que je te ramène aujourd'hui. Au début, moi, vu que j'ai aussi été un petit peu réalisateur de clips il y a quelques années, j'ai essayé de me dire, tiens, c'est quoi les clips qui m'avaient...
mis une gifle, tu vois, avec lequel j'avais un binôme à l'époque. Et je me souviens très bien qu'on avait une rêve qu'on ressortait assez régulièrement, qui était un groupe de rap hollandais qui s'appelle Dope D.O.D. Et vraiment, le clip, tu sentais qu'il n'était pas fait avec grand-chose. Et en même temps, il y avait des effets chamés. Et ça nous avait pas mal suivi. Néanmoins, si le clip artistiquement est cool, musicalement, je me suis dit qu'on allait peut-être un tout petit peu moins s'y retrouver, que ça soit tous les trois, mais tout simplement nos auditeurs. Donc du coup, non, je suis allé repuiser aux origines. Et c'est là où vient justement ce professeur que j'ai eu, moi. J'étais en option art plastique, tu vois, c'était pas cinéma, okay, mais c'était art plastique. Et il nous a énormément formés à l'art vidéo. En tout cas, lui, c'est vraiment quelque chose qui le passionnait. Ouais. Moi, Monsieur Martin... c'est un peu vraiment mon premier mentor, c'est en tout cas la première personne qui m'a encouragé à continuer à la vidéo. Et du coup, tu vois, qui a un peu aiguisé mon œil et tout ça. Et c'est lui qui m'a mis, je pense, ma première vraie claque de clip, parce que je découvre à ce moment-là que, en fait, le clip, ça peut être autre chose que un playback pour un artiste X ou Y, que ça peut être un objet d'art, entre guillemets.
Vraiment.
Et il nous parle du coup du travail d'un réalisateur et plasticien du nom de Chris Cunningham, qui a commencé sa carrière en bossant sur les effets spéciaux de Alien 3 de David Fincher et de AI de Steven Spielberg.
Tranquille.
Et j'avoue, qui par la suite, du coup, a réalisé des clips assez marquants. On peut notamment citer Madonna Frozen, et un clip de Björk que je vous recommandais tout à l'heure, moi, qui vraiment est très très fort. Mais moi, à l'époque, l'artiste avec lequel il a collaboré et qui me marque, c'est Aphex Twin.
Ouais.
Aphex Twin, c'est un producteur de musique électronique irlandais né au début des années 70. Et avec Chris Cunningham, ils ont collaboré sur deux clips. Un premier qui s'appelle Come to Daddy, qui met en scène en gros des enfants dont le visage est celui d'Aphex Twin, et qui poursuivent une grand-mère avec des battes de baseball dans un décor humide et froid dans la banlieue de Londres. Donc ça, déjà, c'est pareil, c'est une ambiance en soi.
Ah, c'est l'ambiance Aphex Twin, en tout cas.
C'est vraiment marquant. Et le deuxième morceau, c'est Window Licker, qui parodie en fait l'imagerie un peu bling bling des clips de rap américains de l'époque. Le clip dure 10 minutes, il est tourné dans les rues chaudes de LA. Il commence avec une discussion en voiture entre deux pastiches de mecs de gang qui vont vite essayer en fait de draguer deux filles qu'ils croisent dans la rue. Et très vite, les deux mecs en fait se font voler la vedette par un danseur au visage hyper étrange qui est toujours en fait le visage d'Aphex Twin. Et en fait, il se met à danser, sa chorégraphie mélange à la fois Michael Jackson, Singing in the Rain et des gestes totalement obscènes. Et à partir de là, voilà, ça part en cacahuète, les femmes prennent aussi le visage d'Aphex Twin, ça part en orgie dans une limousine et ça finit en champagne shower sur une flopée de danseuses en maillot de bain, tout avec le visage dérangeant du producteur. Bref, c'est à la fois drôle, malaisant et totalement anxiogène. Et je vous propose du coup qu'on écoute... Et nous, qu'on regarde aussi le clip ensemble, parce qu'il se trouve en plus que le morceau défonce. Donc voilà, on écoute Aphex Twin, Window Licker, let's go. C'était Aphex Twin avec le morceau Window Licker. Je me tourne vers vous deux et je vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors, je préviens les auditeurs, c'est vrai qu'on a regardé le clip en même temps, donc je vous disais, il est un peu dérangeant. Peut-être que, je sais pas, dans quel état vous vous sentez.
Vas-y, je t'en prie.
Moi, je capte totalement cette esthétique. En fait, c'est ça que je trouve trop bien avec l'électro, que tu retrouves moins dans le rap et certainement très 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 peu dans le rap français. C'est vraiment cette capacité d'aller dans le dérangeant, dans le glauque un peu, mais moi c'est des esthétiques que je kiffe trop. Ça me rappelle un peu les clips de Vitalik à l'ancienne. Ils avaient sorti un clip qui s'appelle Stamina, qui est trop glauque mais qui est trop bien réalisé. J'en ai pas mal, mais je me souviens plus les noms de clips de cette époque un peu électro, vraiment où le clip sert vraiment de matière artistique et pas juste de mise en avant de l'artiste. Mais moi je kiffe beaucoup hein. Je kiffe beaucoup ces esthétiques là Puis c'est des clips où t'es sûr tu t'en rappelles, quoi, parce que c'est bizarre, surtout des fois tu les vois à un certain âge, tu comprends pas, c'est un peu dégueu et en même temps un peu fascinant, tu sais. J'aime beaucoup.
Louis, bah, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Bah, je connais très mal Aphex Twin, j'avoue, à part le classique April 14th. En vrai, du coup, je suis vachement marquée par le clip, mais pas tant par la musique, tu vois. Genre, la musique passe en second plan, en mode, c'est pareil, vraiment un accessoire, quoi, de...
Bah, en vrai, après, je vous conseille, par curiosité, de le réécouter, et le morceau en lui-même, déjà, je trouve qu'il est quand même... je le trouve cool. C'est ce qui se rapproche, d'ailleurs, à mon avis, de plus single, de tentative de single, en tout cas, d'Aphex Twin, de ce que je connais de lui.
Après, c'est ça. Moi, je trouve que dans ce que fait Aphex Twin, et de manière générale, l'IDM, donc Intelligence Dance Music.
On appelle aussi Brain Dance.
Voilà, Brain Dance. Donc déjà, ça te donne un espèce de truc de... Ouais, faut avoir fait Bac+8 pour écouter votre musique, donc c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un truc un peu...
C'est le clip qui vient... Enfin, c'est la musique qui vient habiller le clip. L'image. En fait, l'œuvre, pour moi, c'est plus le clip que la musique.
Ça, je suis d'accord. En tout cas, c'est sûr qu'il l'a... moi, c'est ce que je trouve d'ailleurs assez fascinant dans ce clip-là, et on aura l'occasion d'en parler certainement tout à l'heure. Là, je trouve que c'est totalement la vision entre un artiste à la base quand même vidéaste. Musical. Je pense que quand même la base, elle est musicale. Et ensuite, t'as vraiment ce réalisateur qui vient se coller vraiment au morceau, notamment sur ce morceau où il y a plein de variations. D'ailleurs, pour la petite info, mais je pense que ça joue aussi sur l'esthétique qu'ils ont choisi pour le clip, mais le morceau est en partie composé à partir de sons tirés de vidéos pornographiques. Je pense qu'on comprend après coup, quand on entend les sonorités du morceau, c'est pas totalement surprenant. Puis en fait, c'est ça, le son est fou, je trouve assez imprévisible et en même temps hyper efficace. Et Chris Cunningham là-dessus, tu trouves pas ça efficace?
Je trouve pas du tout ça efficace, toi.
Ok, d'accord.
Tu vois, je trouve ça. Musicalement, je trouve ça chelou et il y a des trucs marrants, tu vois, qu'il utilise après dans le clip pour faire des mouvements spécifiques au perso du clip et tout.
C'est ça.
Mais en vrai, je trouve pas que ça soit efficace.
D'accord, ouais. Bon, bah, c'est peut-être moi.
les goûts et les couleurs, hein, les gars.
Bah, et puis surtout, moi, tu sais, c'est vraiment. Ce que je vous disais off, moi, je me prends ça en première. Donc, tu vois, t'es quand même assez jeune. C'est aussi. Je vais pas dire, c'est certainement pas mes premiers morceaux électro, mais on va dire, oui, c'est électro de niche. Plus pointu. Moi, tu vois. C'est de la musique expérimentale, voire tout simplement juste de la musique chelou. Tu vois, je pense qu'en tout cas, les gens vont considérer comme ça. Et en même temps, Aphex Twin, du coup, il est assez surprenant parce qu'il est capable de faire de la musique électronique la plus hardcore du monde à base de jungle qui en fait donne naissance ensuite à la drum and bass. Et parallèlement à ça, il va te faire un morceau justement que tu citais, Louise, April 14th, qu'on va vous mettre un petit extrait. Morceau April 14th, du coup, qui a été samplé par la suite par Kanye West sur le morceau Blame Game. Et pour moi, je trouve, quand t'écoutes ce morceau-là, tu vois, c'est presque du Chopin, en fait. Enfin, tu vois, c'est une nocturne de Chopin pour moi dans mes oreilles, quoi. Il y a une sorte de pureté, c'est tellement la musique dans son essence, même dans sa plus grande simplicité. Et quand finalement tu t'écoutes pas mal, il arrive souvent à mélanger les deux, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir en fond une mélodie presque enfantine avec des vrais instruments et couplée à des sons les plus électroniques et tordus possibles. Et c'est un peu, c'est une certaine signature qu'on peut retrouver quand même assez régulièrement dans sa discographie. Et c'est tout simplement, après, à côté de ça, un artiste insaisissable. C'est-à-dire que, déjà, on ne sait pas grand-chose de lui. C'est le genre d'artiste à avoir sorti des morceaux sous une multitude de pseudos, qui va te sortir 200 démos inédites sur SoundCloud sous le pseudo user 4842 machin. Te dire en 2014 qu'il a 6 albums de près, mais tu sais jamais trop, en fait, c'est ce qu'il t'annonce sur sa musique et sur sa vie perso. C'est totalement vrai.
Il s'amuse aussi, du coup, on l'a vu sur le clip et sur ses pochettes, il s'amuse énormément avec son image, en fait, où il a ce visage qui vient contorsionner pour le rendre le plus weirdo possible. À l'époque, d'ailleurs, quand il fait ça, c'est donc au milieu des années 90. C'est un peu a priori en réponse à aussi toute la communauté d'artistes techno qui jamais, tu vois, ne montraient jamais leur visage sur les pochettes. Bah lui, il fait vraiment cette espèce de contre-pied. Et après, moi, globalement, tu sais, Aphex Twin, je trouve qu'il a ce côté à 2000% que t'as l'impression d'un geek de la musique.
Ouais.
Qui a priori bidouillait voilà, dès son adolescence des machines pour faire de la musique, pour justement pour donner autre chose. Et je crois que même en 2022, je disais qu'il avait sorti une appli logicielle d'assemblage de samples. Mmh. Donc tu sens que tu as un côté un peu technicien, voire ingénieur de la musique. Et il y a beaucoup d'artistes beaucoup plus mainstream qui le citent comme référence. Je peux vous parler de Daft Punk, je peux parler de Thom Yorke.
Ouais.
Voilà, c'est des. C'est un personnage, du coup je trouvais que c'était une bonne occasion de le ramener ici pour parler clip, parce que moi effectivement ça m'a trauma, et parce que justement il y a ce binôme réel artiste dont on va parler. Et toi c'est quoi tes premiers souvenirs de clip, peut-être qui t'ont vraiment marqué quoi, ou...
J'en ai plein et dans des qui m'ont marqué dans des sens un peu différents. Comme je te disais, il y a tous ces clips d'électro. Typiquement, tu vois, Skrillex avec son clip avec le pédophile. Non, moi, c'est en mode un truc où...
C'est vrai, maintenant tu me le dis. Ouais, c'est pas...
Oui, tout le monde a vu ce
où
clip.
Tout le monde a vu et le clip est venu dépasser le son en soi tellement c'est le clip qui nous marque plus que la musique, tu vois.
Ça, et tu vois, en vrai, en y repensant, je pense que je serais pas étonné qu'il soit un peu inspiré.
Oui, non, mais fort. Ça me fait penser à justement c'est ce, ça, genre, ce genre de truc de bizarrerie. Il y avait un clip où en fait en gros l'intro c'est trois gamins qui trouvent une voiture abandonnée un peu sur un parking, ils rentrent dans la voiture pour la péta et là le son commence et ils se rendent compte qu'ils peuvent plus sortir de la voiture, sauf qu'ils se rendent compte que le son est hyper fort et ça leur fait mal.
Ah oui.
Jusqu'à ce que les basses arrivent et en fait ils se mettent à saigner, ils se mettent à vomir, ils se mettent à essayer de sortir de la voiture. Et ils finissent par canner, mais en fait c'est trop bien pour illustrer le son, genre c'est trop bien, tu vois, pour de la techno, l'idée elle est hyper simple, c'est un décor, ça coûte pas cher et c'est parfait, pour ce genre de son en tout cas, et sinon après quand j'étais plus petite il y avait les clips de, moi je dis Die Antwoord.
Ouais,
ou pareil, bon maintenant Miskin eux, mais à cette époque là l'esthétique... Elle était bizarre en fait, tu vois, super bizarre, et elle collait à la musique super bizarre. Et après, dans des trucs plus mainstream, en vrai, moi, les clips de Rihanna, les clips, le clip de Kanye West, même pas le clip, le court-métrage qu'il avait sorti de 30 minutes de Runaway, pareil, j'avais 9 ans, je m'en souviens. Je me souviens de où j'étais quand j'avais vu le truc, et j'étais en mode, c'est trop bien. J'en ai plein, en vrai, je peux pas tout name-dropper, mais en fait, moi, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère, elle travaillait le mercredi, j'allais chez mes grands-parents. Mes grands-parents, c'était un peu l'endroit où il y avait un ordi. Et je diguais. Je passais mes mercredis après-midi à regarder les clips, à regarder plein de trucs sur YouTube. Des trucs super bizarres. Je pense que ça a un peu forgé mon univers de maintenant sans trop forcément m'en rendre compte. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment ce truc où les artistes que je vais écouter, c'est pas forcément les artistes avec qui j'ai envie de collaborer en tant que réel, tu vois. Typiquement, j'écoute pas d'électro. Tu vois, l'électro, la techno, c'est pas de la musique qui me touche. Je vais pas écouter ça de ouf, mais créativement en tant que réal, trop envie de collaborer avec un mec qui s'en fout de mettre sa tête, mais qui veut juste ou une meuf, mais qui veut juste faire
un
truc,
bon concept de...
qui veut faire un truc bizarre. J'ai vraiment cette démarche là en tant que réal. Je suis pas la même auditrice que je suis réalisatrice.
Ouais, ça qui est intéressant.
Mais c'est parce que certainement t'as l'impression aussi que dans peut-être d'autres genres musicaux, là on va parler d'électro parce que je pense que c'est clairement le rap n'est pas que le seul qui doit être, qui est à mon avis un petit peu entiché dans ses codes. Mais oui, que en tout cas, par exemple, dans les musiques électroniques, les artistes sont plus ouverts à tenter...
Visuellement, parce que déjà, c'est de l'électro, donc il n'y a pas forcément de playback obligé à caler, tu vois. Moi, je sais que dans les clips que j'ai faits, c'est un bête d'exercice de faire des clips commerciaux, mais c'est pas là où je vais lâcher ma créativité à mort, tu vois. Je connais une bonne recette... pour faire un clip commercial avec de l'originalité, hein. Je dis pas qu'il y en a pas du tout, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est pas la démarche où je vais aller creuser dans mon ventre pour sortir tout ce que j'ai comme créativité pour des artistes ou tout simplement leur démarche, c'est pas forcément de faire un clip de ouf, mais c'est plus on a besoin de sortir un visuel, donc on va faire un truc rapide, faut que ce soit cool, mais on s'en fout que ce soit hyper original et que ça marque les esprits, tu vois.
Bah justement, comment tu crées un clip?
Ça dépend, il n'y a pas vraiment de recette établie. La plupart du temps, en vrai, moi je connais des producteurs, on s'envoie des petits messages, des trucs en mode bon bah écoute, j'aime bien ce que tu fais, si j'ai un truc je t'envoie un pitch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des maisons de disques, la plupart du temps, en vrai, dans 80% du temps, c'est que c'est les maisons de disques qui contactent les boîtes de prod avec qui ils travaillent en général, qui vont dire bon voilà, là on va sortir tel morceau, j'ai tant de budget, et ensuite les boîtes de prod écoutent la musique, pensent à des réals qui pourraient être cohérents sur tel track. Et on voit plusieurs réals, bon, on a tel pitch, on a tant de budget, écrivez. Et derrière, il y a une sélection qui se fait par rapport au nombre de pitchs qu'ils ont reçus. C'est la plupart du temps, c'est comme ça. Après, ça arrive que moi, j'ai des chefs de projet qui me contactent directement sur mes réseaux ou par mail. Ou même des artistes aussi, c'est arrivé. Pour des plus petits noms, puisque c'est vrai que quand t'es un gros artiste, en général, t'es en contact avec les équipes et pas directement. Ouais. Sauf Soso, qui est incroyable, qui a pas de manager, qui est en contact direct. En mode, ça,
ah ouais,
c'était marrant comme expérience, c'est cool, je trouve. C'est agréable de parler directement à l'artiste parce que t'es sûr de savoir ce qu'il veut.
Ouais. Mmh.
Mais voilà, la plupart du temps, ça se fait comme ça, tu passes par les boîtes de prod.
Et donc du coup, tu dis tu fais un pitch, donc ça veut dire qu'en gros, tu es en bataille avec 4 autres réals qui ont fait des pitchs et qui a le meilleur, quoi.
T'es toujours... la plupart du temps, ouais, t'es en... En fait, après, c'est pareil, il y a plusieurs types de réalisateurs. Il y a les réalisateurs qui ont déjà un univers hyper ancré, où on va les appeler eux... pour avoir cet univers-là, et ensuite il va faire plusieurs versions jusqu'à trouver ce que l'artiste veut vraiment, mais l'équipe ou l'artiste va vraiment vouloir ce réal pour la patte typique. Et il y a les réals qui vont plus qui vont apporter une patte, mais qui vont quand même plus s'adapter à l'univers de l'artiste. Moi, je pense être plus dans cette catégorie-là pour l'instant, puisque j'aime bien aussi c'est une jeune réal, hein, j'ai un an et demi d'expérience. Mais j'aime bien aller chercher, et puis surtout je suis dans des artistes qui ont des univers vraiment différents. Donc tu clips pas une Davinor comme tu clips un Niska typiquement, tu vois. Moi je m'adapte en essayant d'apporter un visuel qui me ressemble, vraiment esthétiquement. Enfin, je pense que quand tu regardes mes étalos, mes trucs comme ça, tu vois un petit peu ce que je kiffe, la saturation, le contraste très fort, les trucs comme ça. Mais je peux m'adapter, et puis des fois je vais me dire ah, vas-y, j'ai pas envie de faire un clip saturé, là j'ai envie de faire un clip truc, et puis je vais aller dedans. Tu vois.
Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que une fois que t'es sélectionné, est-ce que t'as des discussions en direct avec l'artiste pour être en mode ok, qu'est-ce qu'on veut sur, ou avec le, en tout cas le, je sais pas, le manager ou
franchement, ça pareil, ça dépend de ouf des artistes. Okay. Je vais pas te mentir, il y a des artistes qui s'en foutent de leur clip, il y a des artistes des fois qui sont arrivés, ça c'est beaucoup plus dans le street, tu vois, dans le rap street. Il y a pas mal d'artistes qui s'en tapent, ils arrivent, ils ont pas lu le sino, hein, ça arrive, il y en a qui n'ont pas lu le sino, ils sont là en mode ouais, on fait quoi, tu les diriges et ça se passe comme ça. Il y a des artistes qui veulent vraiment la main, qui vont te faire corriger 3 fois le sino, en mode ça, truc et tout. Il y a des artistes qui lisent, mais qui communiquent pas en direct avec toi, tu vas passer que par leur manager. Donc il y a plein de manières de faire, c'est vraiment des manières de faire différentes. Après, c'est ça qui est marrant aussi d'être là, c'est que tu travailles avec plein de personnalités différentes, donc à chaque fois c'est une nouvelle expérience, tu vois, c'est une nouvelle...
C'est s'adapter aussi à comment est-ce que les autres fonctionnent et comment est-ce que tu peux faire l'ego avec eux, quoi.
C'est ça.
Et toi, en général, qu'est-ce qui va te motiver, du coup, artistiquement, sur un clip?
Franchement, des fois, c'était la musique. Des fois, je vais pas te mentir, c'était l'argent.
Bah ouais, non, mais c'est...
Honnêtement...
Normal, hein, c'est un métier, hein. C'est pas que...
quand
c'est pas que de l'art, quoi.
Et puis quand t'es réel et que t'es pas encore que sorti du rap, c'est compliqué, en vrai, pour parler très honnêtement, hein, de bien gagner sa vie. Parce que tu peux pas accepter 15 projets par mois, et y a pas... Y a de moins en moins d'argent dans l'industrie de l'audiovisuel, dans le rap, j'ai l'impression. Donc des fois... Enfin, en fait, tu fais des mois où tu vas faire 2-3 projets, et puis après, pendant 2 mois, t'as plus rien, donc t'es obligé d'accepter. On te propose un truc, la musique te parle pas de ouf, mais tu vas l'accepter parce qu'il faut faire rentrer, tu vois, c'est comme ça. Hein. C'est un taf. Après, mon but, c'est aussi justement de m'écarter un petit peu, d'avoir cette nécessité de tourner si j'ai pas envie de le faire. Parce que t'es toujours un peu bloqué dans un truc où faut quand même que je reste régulière dans mon contenu, mais là, j'ai un contenu que j'ai pas forcément envie de faire. Faut le mettre en avant, mais si je mets aucun contenu pendant 4 mois, les gens ils vont m'oublier, donc t'es toujours un peu dans des trucs un peu comme ça. Et là, le but, c'est de pouvoir...
Oui, comment tu t'y retrouves un peu artistiquement?
Sélectionner
tout en
de
étant,
plus en plus. Je revois un petit peu là ma manière de faire dans ça. Après, moi, ce que je kiffe le plus, en vrai de vrai, j'aime beaucoup travailler avec des meufs parce que t'as encore plus de créa, tu vas vraiment taffer une tenue, tu vas vraiment... Tu taffes aussi du stylisme chez les gars, tu vois, mais chez du rappeur, en vrai, c'est vrai que... Moi, je suis un peu déçue des rappeurs dans leur folie, en vrai. Pas tous, mais dans leur folie de clips, en mode, quand tu regardes, même aux States, ils vont aller beaucoup plus loin. Même Migos, qui ont une street cred de ouf, ils vont pas hésiter à s'habiller gros disco et de faire des trucs un peu zinzin. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué d'aller tirer des fois des rappeurs... pour aller leur faire faire des trucs un peu originaux. Il y en a, hein, tu vois. Mais la plupart, c'est un peu compliqué. C'est toujours les mêmes codes. Donc, je m'éclate plus déjà avec les filles parce que les rappeuses, il y a tout un terrain à prendre, déjà. Il y a vraiment tout un univers à créer. Enfin, plusieurs univers, même. Et j'ai un peu une passion aussi pour les bad bitch, genre les meufs qui savent danser, ouais. Les meufs, tu vois, typiquement vraiment, t'as fait avec Davinor, c'est un plaisir, tu vois. Ouais. T'es là, t'y vas, ouais, j'y vais, et puis elle te mange la cam en deux secondes, le juice pareil.
Le clip de Floco.
Le clip de Floco, pour moi, c'est un de mes clips préférés, pourtant c'est que mon deuxième clip, tu vois, mais c'est pas un truc, tu vois, la séquence où le juice, elle arrive, elle prend la tête du mec, elle doit le maintenir et faire son playback.
Ouais.
Quelqu'un qui n'a pas de charisme, cette idée-là, elle passe pas ça du tout, tu vois. Donc, jusqu'au dernier moment avant de réquer, tu sais pas si ton plan va fonctionner. Et puis, au final, les meufs, elles font trop, trop bien leur taf. Donc, ça passe parce que tu sens justement qu'elles ont faim, en fait, tu vois. T'as des rappeurs, et puis c'est des rappeurs que je kiffe de ouf, tu vois. Je veux pas cracher dans la soupe parce que musicalement, c'est vrai que des fois, en mode, c'est pas ton travail non plus de te montrer, d'être hyper bon devant la caméra. Ton travail, c'est de bien rapper. Et si tu te contentes de ça, y a pas de souci, t'as pas de compte à nous rendre visuellement, tu vois. Mais du coup, moi, ça va moins m'intéresser de clipper tel ou tel rappeur.
C'est sûr, parce en tant que réal, t'as aussi envie d'avoir un peu de challenge, envie d'avoir un peu de retour quoi, de la personne avec qui tu travailles. C'est
de ouf. Je vais continuer à les écouter, je les kiffe. Mais vas-y, la collab, pas sûr que ce soit la meilleure collab. Parce qu'il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi, des gros street clips et tout. Il y a plein de gens beaucoup plus talentueux que moi dans ce créneau-là, tu vois. J'aime bien le faire, des fois, juste pour me rappeler un peu l'exercice, mais pas tout le temps, tu vois.
Ok.
Pas tout le temps, parce que c'est aussi beaucoup de galères, tu connais. En retard, truc, tu vois, il est là-bas. Il est où? Bah, il est en train de béda. Putain, appelez-le, on doit tourner.
Très bien, et eh bien, après ces problèmes-là avec les rappeurs sur les tournages, on va pouvoir enchaîner sur le son d'après. Et maintenant, du coup, Ambre, on va te demander quel est le deuxième morceau que tu as ramené.
J'ai choisi un morceau qui s'appelle Golden Arrow de Darkseid sur l'album Psychique. Darkseid, c'est Nicolas Jarre. C'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Et c'est.
Gros producteur de musique électro. Ouais.
Énorme. Moi, je le sens vraiment comme plus du rock alternatif, très sombre, mêlé à de l'électro, mais avec des instruments rock quand même. C'est le son d'intro de l'album. C'est un son qui dure 11 minutes, qui est très 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 évolutif, qui est très très grave, très très sombre, et que j'adore, qui m'a mis une énorme gifle, un peu un délire de trance, tu sais. J'ai vraiment un souvenir de... Pareil, je crois que c'était 2015 encore, rien à voir avec la trappe pour le coup. Après un bon sandwich, m'allonger sur mon lit, écouter le morceau et être vraiment en mode, tu sais, dans un délire, je vais pas dire de trance, mais tu sais, t'écoutes le truc avec des très très bonnes enceintes et tu ressens vraiment, tu ressens la musique, tu vois. Je saurais pas comment définir cet état, mais c'est vraiment un truc de, ça te fait quelque chose, tu fermes les yeux,
tu vois des images,
ça se passe dans ton corps, ça se passe vraiment dans ton corps.
Ah, tu vivras avec.
Ouais. Donc, je voulais le partager parce que je pense que c'est un de mes albums vraiment préférés de tous les temps, déjà musical. Et voilà.
Trop bien. On écoute ça alors.
Thank you.
C'était Golden Arrow de Darkseid, le deuxième choix de Ambre, qui nous disait du coup hors antenne que c'était vraiment un morceau que tu kifferais de ouf clipper.
En fait, ouais, c'est, je trouve que quand t'écoutes le son, il est hyper visuel.
Ouais.
Et c'est ce que je disais la première fois que je l'ai écouté, vraiment, je fermais les yeux et typiquement, il y a trop d'images, il y a trop d'images qui viennent. Et hors antenne aussi, ce que je disais, c'est que ça dépasse un peu le clip.
Ouais.
Quand tu clips un morceau de 11 minutes comme ça, c'est, tu veux vraiment venir habiller et, dans un délire onirique, faire une œuvre en fait. Tu
ouais,
vois. C'est ça vraiment que ça t'inspire. Mais ouais, incroyable morceau
ouais,
que j'aime énormément.
C'est trop bien. Moi, je connais très mal Darkseid.
Ouais.
Et j'avoue que ça... Enfin... J'avais pas besoin d'être convaincue plus que ça, mais j'avoue que là, sur ce premier morceau, c'est le premier morceau de l'album.
Ouais, c'est l'ouverture.
C'est,
ouais,
c'est clair que ça donne envie d'écouter
l'album. L'album
t'as
en
vu comment, en fait, c'est planant.
Ouais.
Planant, ouais. Fou. Et dans mon souvenir, parce que je sais que je l'ai quand même pas mal écouté, l'album est vraiment beaucoup comme ça, quoi.
Ouais. Avec moi qui mange très peu de sandwich, cela dit, je prends beaucoup le train, donc je sais que c'est des trucs que j'aime bien écouter dans le train,
ouais.
Tu vois, genre pour être dans une bulle, quoi.
C'est ce que tu disais, que vraiment, il y a cette impression un peu, ouais, d'être dans un tunnel. Je sais pas, ouais. En fait, il y a trop d'images. Même, je pense qu'il le recherche. Hein. Il te met des petits sons qui t'évoquent des petits trucs, forcément.
Mais c'est drôle parce que moi, typiquement, c'est. Je saurais pas par où le prendre, un clip comme ça. Tellement, justement, il y a quelque chose de planant. Et moi, je sais que les morceaux auxquels je suis, par exemple, particulièrement attaché, alors souvent dans. Des anciens morceaux, j'aime pas avoir un visuel dessus en fait. Je crois que tu sais, parce que quand j'écoute de la musique, d'avoir systématiquement les images du clip qui me revient, bah ça vient, je pense, comme on disait avec Aphex Twin, tu vois, peut-être un peu bouffé sur le morceau original.
Ouais, je comprends.
Et du coup, les.
Bah, c'est vrai que c'est des morceaux tellement forts et qui vont tellement taper dans ton inconscient que tu veux garder un peu la liberté de pouvoir imaginer
exactement,
toi-même ce que tu veux.
Ouais,
je
suis d'accord, c'est ça.
C'est comme une adaptation d'un livre un peu, quoi.
Ouais.
Dans le livre, t'avais une idée et après t'as l'adaptation en film et t'es en mode putain, il avait pas cette gueule dans ma tête, mais maintenant il a cette tête.
Ouais, exactement.
Ouais, j'avoue, c'est un peu ce délire-là. Et donc, tout à l'heure, on parlait un peu du fait que souvent, les clips, en tout cas avec les gros artistes avec lesquels t'as bossé, c'est un peu moins de la création pure. C'est pas forcément des trucs dans lesquels tu vas vraiment mettre ton âme et tout. Et je me disais, toi, comment t'arrives à exprimer ta sensibilité dans tes créations, que ce soit la photo, la vidéo? Est-ce que tu fais des trucs à côté?
Oui, grave. Bah, après, déjà, je pense, juste pour rebondir sur ça, un clip, dans tous les cas, c'est un support où tu travailles pour un artiste,
ouais.
Tu vois. Donc tu te dois de respecter l'ADA qui est déjà existante de l'artiste, les mélanger, mais tu peux pas arriver et imposer que ton idée. Tu dois forcément avoir ce côté adaptatif, c'est essentiel quand t'es réalisateur de clips, clip. Et comme je dis, moi j'adore cet exercice, il y a des artistes avec lesquels j'ai plus ou moins de liberté, en fonction soit des codes, soit de leur univers qui est très fort ou pas en termes de DA. Mais c'est vrai que forcément... Je me considère entre guillemets un peu comme une artiste, tu vois, donc forcément il y a des moments où j'ai envie de faire. Oui, j'ai imité un sujet. Mais oui, où t'as envie de faire des trucs qui sortent que de toi et rien de voir à personne. Et je fais une exposition entre le 16 et le 19 mars de photos qui ne sont pas des photos d'artistes. Non, mais oui, après c'est clair. Après là, par exemple, pour le coup, j'ai vraiment mis de côté depuis. C'est un an et demi où je fais de la réalisation de clips. J'ai mis un peu de côté tous les projets perso parce que j'étais à fond dedans, etc.
Ouais.
Et que c'était trop cool, tu vois. Mais c'est vrai que là, au bout d'un an et demi, ça commence à me manquer de faire mes photos, de montrer... parce qu'avant, je faisais beaucoup de photos aussi. J'ai fait pas mal de street photos, j'ai mis de côté. Et ça commençait à me manquer de vraiment montrer... Parce que je sais faire quand c'est 100% moi la proposition, tu vois. Sans compromis, sans devoir discuter avec des équipes... modifie ça. Donc j'y reviens petit à petit. Donc là, ça commence en photo, pas encore en vidéo. J'ai pas envie de m'avancer, mais c'est vrai que peut-être dans un second temps de carrière, je vais me remettre à écrire peut-être des vidéos, des courts-métrages, ce genre de format par lesquels j'ai commencé vraiment, mais en tant que technicienne. Mais c'est vraiment pas du tout la même manière de travailler, tu vois. Typiquement de la fiction, un court-métrage, ton projet, tu le traînes sur un an, alors qu'un clip, ça m'est arrivé qu'on m'appelle 3 jours avant, et le projet, en une semaine, il est bouclé, tu vois. Donc, Donc c'est pas du tout les mêmes, la même manière de produire, la même manière de travailler,
ouais, c'est etc. C'est des temps différents.
C'est des temps hyper différents. C'est de la réflexion, enfin même le processus créatif, il est radicalement différent.
Puis tu te retrouves en fait dans un clip, si tu te retrouves un peu comme si tu travailles sur une pub, c'est-à-dire que t'es, au final, t'as quand même un client.
Exactement.
Auquel tu dois un peu répondre.
Bah ouais, de ouf.
Et la finalité, c'est quand même de... que le client il soit content de son du produit.
Ouais, mais c'est ça que
qu'il
je trouve. En fait, c'est ça que je trouve intéressant, parce que autant sur une pub, j'ai en tout cas moi de ma vision de meuf qui a jamais fait de réel, j'ai le sentiment que bah oui, ils arrivent avec un pitch, tu dois faire des trucs selon la marque et tout machin, tu peux pas vraiment sortir de ce truc là. Alors que entre deux artistes, je trouve qu'il y a aussi un truc où réussir à trouver l'équilibre entre tout le monde pour que un peu tout le monde soit content, tu vois, et pas toujours parce que je pense que c'est ça la difficulté en fait d'être artiste de manière générale. Moi je suis DJ, c'est pareil, tu vois, il y a un espèce de côté il faut que les gens soient contents mais en même temps que toi tu sois content,
ouais,
tu vois,
bien sûr.
Faut trouver un espèce de cet équilibre là et du coup c'est pour ça que je me disais peut-être t'as d'autres trucs à côté qui font que du coup tu peux faire des clips sur lesquels t'es pas forcément genre ultra créatif, ou en tout cas tu peux pas forcément ramener ta patte de ouf, mais du coup ça te permet d'être ailleurs. Enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'argent. En vrai, c'est le nerf de la guerre, quoi. Pour moi, si t'as de la thune, et du coup, ça t'achète du temps pour faire des trucs avec le perso, quoi.
Franchement, ça, c'est exactement les problématiques que nous, on peut rencontrer en tant que réel. C'est vrai qu'en vrai, avoir au moins une... Parce qu'en plus, nous, on travaille avec... on est freelance, on est intermittent. c'est des trucs où t'as pas une stabilité.
Ouais,
à part avec l'intermittent, mais tu restes assez précaire. Donc, malheureusement, l'argent que tu coffres, à part si vraiment... Enfin, t'es obligé d'en fait d'avoir un milieu où tu vas faire du commercial pour avoir cette SACEM-là qui va te permettre de réinvestir dans ton propre art,
bien
en fait,
sûr.
Tu vois. Mais quand t'as pas encore les SACEM, quand t'es avec des artistes en dev, t'as pas encore de sous, donc tous tes sous, ils vont partir dans des trucs de la vie quotidienne, mais du coup, sur ton temps perso, soit tu travailles de ouf sur ce que tu fais. Moi, je sais qu'aussi l'année dernière, je travaillais tellement sur les clips que mon temps perso, j'avais pas forcément envie non plus de le passer encore une fois sur mon ordinateur à écrire sur des cours et tout, donc il faut puis ça vient avec le temps, hein, tu vois, je crache pas du tout dans la soupe, mais tu as le temps de faire un peu ton nom et le truc, et c'est pas non plus encore mon cas de ouf non plus, mais trouver le bon équilibre entre savoir faire du commercial mais le faire bien, avoir quand même ta stabilité financière qui derrière te permet de te dégager pour proposer des trucs qui soient beaucoup plus perso, mais réussir à faire les deux, c'est cool. Moi, j'ai pas envie d'arrêter totalement de faire du commercial, je kiffe. Ouais. Je trouve ça marrant. Enfin, genre.
Il y a un exercice de style.
Puis ça me rapporte même à des clips commerciaux que je kiffais aussi grave quand j'étais petite, tu vois. Mais l'artiste, il est content à la fin.
Ouais, des clips commerciaux comme ça, je me souviens de notamment des Justin Timberlake quand j'étais petite, ils m'ont grave marqué, tu vois. Il est en full playback et tout machin, mais t'as des trucs qui te marquent.
De toute manière, il y a toute une imagerie comme ça sur laquelle on a forcément...
Moi, je sais que...
Les Spears, les chorés de ouf, moi, je kiffe trop ce genre de clips. La danse dans les clips, j'aime trop.
Ouais.
Chorés et tout.
Moi, c'était le trio Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake. À l'époque, tous les clips, j'étais en mode, je les adore.
On les adore.
Est-ce que, par exemple... En tout cas, on a l'impression que tu es assez proche d'une artiste, par exemple, comme Johanna.
Ouais, Johanna, c'est une amie de lycée. On se connaît, connaît de l'école, donc oui, c'est...
Et est-ce que là, par exemple, quand vous travaillez ensemble, est-ce que c'est différent, du coup, qu'avec... j'imagine que oui, c'est un peu... ou pas.
Alors, Johanna, en gros, on a fait une collab ensemble sur le clip de...
Sur ton corps.
Ouais, de Sur ton corps, où elle m'a appelé en mode j'ai pas de budget, mais j'ai peut-être un truc là pour faire un truc avec Léo et Lulu. J'ai envie de faire un concept où on fait un truc porno qu'on publie que sur Pornhub et tout. Donc c'est de la co-réal déjà, où elle a plus une réal DA et moi j'ai plus une réal technique.
Okay.
Après, sur ce clip, en vrai, j'étais réal, chef-op, productrice, limite, enfin tu sais, dire de prod.
T'as tout fait quoi.
En mode, on a vraiment mis un mode brawl bas de combat. Et c'était super cool. En vrai, le tournage, trop trop bien. C'était un de mes premiers clips où je devais gérer, même si c'était vraiment pas beaucoup, mais où j'avais quand même un budget, où j'ai pu me permettre d'avoir une petite équipe et quand même un peu de matos, tu vois. Donc super tournage, en vrai, enfin trop marrant comme expérience, et ça s'est hyper bien passé, et c'était aussi trop bien de collaborer avec des gens comme Léo et Lulu, qui étaient aussi hyper contents de collaborer avec Johanna. Moi, je collabore aussi avec ma pote et tout. Après, typiquement, Johanna, c'est le genre d'artiste qui est artiste assez complète et qui a une main hyper mise en mode sur ses clips.
Ouais.
Et typiquement, moi je vais trop kiffer ce qu'elle va faire comme clip et tout, mais je sais que je pense que ça dépend. Après, je l'ai pas vue dans ses grosses prods, mais elle a tellement la main mise sur ses clips que je sais pas si moi j'aurais un espace énorme de
création.
Oui,
c'est ça. C'est peut-être que la collab est peut-être pas si évidente. Si tu veux, pareil, t'y retrouver un peu quoi.
On verra. Tu vois, elle ressort un album. J'en sais rien. J'ai pas non plus envie de. Tu sais, puis il y a ce truc aussi quand c'est tes amis.
Bien sûr.
Tu travailles dans le milieu, t'es pas en mode. Donc on verra. Franchement, si ça se fait, ce serait super cool. Si ça se fait pas, ce serait super cool aussi parce qu'il y a pas d'urgence forcément. À ce qu'on collabore ensemble, sachant qu'on a des points communs, mais des fois sur certains visuels, c'est pas non plus le même univers du tout, tu vois. Mmh. Donc.
Et là, vous avez senti du coup une liberté totale, tu le disais, quand même le moyen de diffusion qui est Pornhub, qui est quand même quelque chose d'assez. Original, on va dire, dans le milieu. Comment du coup vous êtes senti pour travailler sur justement la sensualité, le corps, la sexualité
pour nous, c'était hyper, hyper important en tant que femme et en tant que hyper féministe. En vrai, c'était important de créer un plateau de tournage qui soit hyper safe pour tout le monde, pour justement faire ressortir du mieux possible. Parce que Léo et Lulu, à la base, avant d'être deux gens qui font du porno, c'est un couple qui s'aime énormément. Ça se ressent énormément quand tu les rencontres. Il y a beaucoup de... Ils sont trop mignons. Il y a beaucoup d'amour entre eux. Le clip est très sensuel, donc on voulait pas en mode faire du porno. On voulait vraiment montrer, tu vois, entre aussi un couple qui s'aime et tout. Donc déjà, on a aménagé le plateau pour qu'ils nous voient pas. Donc en fait, on les isole. On fait en sorte de mettre les moniteurs derrière. On a fait en sorte qu'ils nous voient pas. De faire monter toute l'équipe en haut, tout foutre en HF pour que toute l'équipe soit en haut et qu'ils aient pas de personne comme ça à côté d'eux pour vraiment les... Voilà. Le top shot qu'il y a, qui est un peu le plan principal du clip, on a laissé la caméra tourner pendant une heure parce que le temps déjà qu'ils se mettent à l'aise, qu'ils se chauffent, que l'exercice fonctionne vraiment. Et voilà, on l'a travaillé comme ça. En vrai, on était stressés avant le tournage, en mode comment ça va se passer, tu vois, c'est quand même particulier.
Ah, bien sûr, ouais.
Et en vrai, ça s'est super bien passé. Et eux, en vrai, en plus, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux aussi, ils étaient stressés, puisqu'ils se filment eux-mêmes, mais ils sont pas du tout habitués à avoir une équipe de tournage autour d'eux, tu vois.
Oui, c'est pas la même chose d'avoir...
C'est pas des acteurs porno, tu vois, où c'est une dynamique différente. C'est deux personnes qui font du porno amateur, très très bon dans ce qu'ils font entre guillemets, dans le sens où ils connaissent bien leur taf, etc. mais quand je dis amateur, c'est qu'ils maîtrisent quand même bien l'exercice, mais ils se filment eux-mêmes, tu vois, ils montent eux-mêmes, ils ont, tu vois. Il y avait aussi le challenge de pas montrer les visages, donc c'est un autre truc où tu dois penser les plans, puisque quand tu filmes du sexe, en vrai, en général, ce qui excite les gens, c'est aussi de voir les expressions du visage, etc. Donc il y avait tout à retravailler à ce niveau-là dans la prépa. Mais voilà, donc on passe par des trucs où soit on filme des gros plans de ce qui peut se passer près de la bouche, soit on filme les ombres. Je sais pas si vous avez vu le clip. Soit le top shot, ou après, on va jouer sur les cheveux, ou on va flouter sans que ça se voit, mais un tout petit peu les yeux, etc. Mais hyper intéressant de bosser sur ça. Trop bête d'expérience, en vrai. Parce que c'était grave dans le respect, c'était cool. Trop bien. J'ai kiffé, ouais. Gaulerie, en vrai, chelou, mais j'aime bien faire des trucs qui sortent de l'ordinaire.
Ouais, c'est ça, non, mais tu rentres dans un univers, t'as des contraintes aussi qui te dirigent un petit peu sur ta manière de créer le clip et un truc d'ouverture, quoi. Trop bien, c'était...
Oui. Non, mais, eh bien, écoute, je propose qu'on passe au son d'après. Car c'est à moi maintenant de présenter un morceau. Et moi, je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire un épisode là sans avoir une meuf bien badass qui porte ses ovaires là, qui les met bien sur la table pour conclure en beauté. Et Ambre, je me suis dit, après des meufs comme Johanna, le Juice, David Nord, avec qui je kifferais te voir collaborer. Tu vois, je me suis pas mis de limite, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, tout déboîter visuellement. Et on parlait un peu de danse tout à l'heure, je sais que t'aimes bien ça et tout. Et je sais aussi que t'as passé un peu de temps en Argentine.
Nati Peluso.
Oui. Tout à fait, je me suis tournée vers une des figures majeures du pays.
Incroyable.
La merveilleuse Nati Peluso. Du coup, avant de dérouler un peu mon propos, est-ce que tu kiffes ce qu'elle fait?
Je suis une énorme fan de Nati depuis que j'ai posé les pieds en Argentine la première fois.
Ouais.
Oui, grave, rêve absolu de tourner avec elle. Ouais. Typiquement le genre d'artiste complet qui sait danser, qui a un charisme de fou avec qui j'aimerais collaborer.
Ouais.
C'est un de mes goals absolus.
Trop bien. Et moi, j'avais une question déjà sur l'Argentine. T'as passé un an là-bas, ça?
Alors, moi, ma mère, elle vit en Argentine depuis 4 ans.
Ah, ok. J'allais te demander pourquoi l'Argentine.
Elle a adoré le pays, elle a voyagé à la base. et elle a décidé de rester tout simplement. Du coup, juste après mon BTS, ouais, je suis partie 8 mois. Je suis arrivée et à la moitié de mon voyage, il y a eu
le Covid.
Un petit truc sympa qui s'appelle le Corona. Et du coup, je vivais pas dans le même lieu que ma mère. J'étais enfermée dans une énorme coloc avec des amis qui sont devenus des personnes très très importantes dans ma vie. Et du coup, c'était trop cool. Et ouais, on a pas mal écouté Nature, on a pas mal écouté plein de trucs en vrai. Mais ouais, mais ouais, j'ai un rapport à l'Argentine. Bah déjà, c'était mon premier vrai voyage où je viens vivre dans un pays. Et quand tu restes bloqué 4 mois dans une période un peu de dépression, parce que c'était 4 mois, on a fait 4 ouais. mois. Eux, ils sont restés 6 à 8 mois en confinement okay. ferme, vraiment énorme. Et on a vécu des trucs hyper durs ensemble, des trucs hyper cool ensemble. Mais du coup, je sais que... Et c'est aussi quand je suis partie en Argentine, c'est aussi là où je me suis formée à la photo. Ouais. Parce que pareil, pas de clip, pas de truc. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Photo. Parce qu'avant, j'étais que dans la vidéo. Et donc, c'est mes premières photos. C'est la première fois où justement, je vais vraiment creuser. Qu'est-ce que je kiffe visuellement, où je me suis vraiment découverte. Parce que j'étais technicienne avant, ou alors street clip, mais du coup, c'est différent. Et ouais, rapport hyper artistique à l'Argentine. C'est très, très stimulant, je trouve, comme ville visuellement déjà. L'architecture, c'est un bordel. Tu vas avoir une toute petite église entre deux énormes bâtiments et ouais. des petites maisons, des trucs... moi, c'est des visuels que j'aime de ouf. Des gens que j'aime beaucoup. Après, c'est un pays aussi difficile, hein, l'économie ouais. en Argentine. C'est chaud. Mais j'ai en projet quand même d'aller retester un an. Là, je suis repartie 2 mois. Là, je suis revenue à 2 semaines. Les gars, j'ai froid. Mais j'aimerais bien, ouais, d'ici novembre, retester un an là-bas, puisqu'il y a trop de gens avec qui j'ai envie de collaborer okay. et essayer de voir comment ça prend, tu vois. En prenant forcément en conséquence l'économie du pays, l'état du pays, etc. Mais ouais, j'ai envie de travailler avec ces artistes-là. Je suis hyper inspirée, en fait. Quand je suis là-bas, je le sens de ouf.
Ouais.
C'est un autre délire.
Bon, je suis ravie alors d'avoir choisi la bonne artiste.
C'est que j'ai hésité en plus à la mettre dans les deux sons, mais...
Bah en fait, moi j'ai hésité à la base, j'étais en train de me dire... En fait, je sais pas pourquoi, j'étais en train de faire la liste des Argentins, Argentines que j'écoutais et tout. J'étais en mode, faut forcément que je ramène un truc lié à ça. Et puis à un moment donné, je sais pas, j'ai vu la lumière, j'ai fait, mais bien sûr, Nathy Peluso, bah, ça a Nati. Tout sens, tu vois. Je me disais, qui est-ce qui peut manger la caméra?
Ah, c'est une personne dans un clip. Qu'elle, hein, franchement.
Et franchement, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque dans le podcast et qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de ouais. ramener cette meuf. Enfin, pour les gens qui connaissent pas Nathy Peluso, en gros, c'est une artiste qui a vraiment un charisme gigantesque, quoi. J'écarte les bras pour l'audio guide, mais vraiment, c'est un... quand elle est face à une caméra, il se passe un truc, quoi. Et donc, c'est une artiste argentine, rappeuse, chanteuse, qui a 28 ans. Elle a grandi quand elle était petite à Buenos Aires et elle a émigré, je crois, au début des années 2000 en Espagne avec sa famille, parce que c'était la crise économique en Argentine. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants de cette crise, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, elle a commencé à chanter très jeune avec sa sœur, je crois qu'elle est aussi chanteuse.
Ouais.
Et elle a aussi fait des études de théâtre, ce qui peut expliquer un peu pourquoi elle a autant de charisme face à la caméra, en tout cas une espèce d'aisance comme ça. Et en 2020, elle a sorti du coup son premier album qui s'appelle Calambre, qui a reçu le Latin Grammy Awards.
Calambre, incroyable.
Ouais. Du meilleur album de musique alternative, parce qu'en fait, en effet, elle mélange plein d'influences musicales, de manières de chanter, de rapper et tout, et c'est très éclectique et toujours très très bien fait. Et voilà, surtout, moi je trouve que dans toutes les vidéos qu'elle a sorties, dans tous ses clips et tout, il se passe un truc, quoi. Elle danse, elle performe avec une espèce d'énergie où t'es... Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai un attachement à elle dans le sens où... je me dis, ouais, mais j'aimerais avoir ce swag, quoi, cette manière d'être à la caméra. Enfin, je sais, comme d'habitude.
C'est une question d'attitude, de magnétisme, quoi.
Ouais, elle a une sacrée aura.
Ouais, c'est exactement le mot, je crois, c'est magnétique. Et du coup, là, je voudrais vous passer le morceau qui s'appelle Sana Sana, qui est extrait de cet album-là, mais qu'elle a aussi fait en session sur Colors. Et je pense que c'est la session qu'on va écouter et qu'on va regarder nous ici, parce que je trouve que ça vaut le coup. Tengo fuerza pa partir a coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hachís. Si te muestro, viene la polish. Si me agacho, siente tu mi clitoris. Mira qué elegante pista Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiártela primero. Agarra más cabaña y aprende, bicho culero. Y si el FBI me la toca, si creen que
gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiátela primero. Agarrame a cabine y aprende.
Sana Sana de Nati Peluso, c'est la version Color Session, car vous avez probablement entendu ces bling bling qui se cognent les uns avec les autres.
On entend dans le track, ouais.
On entend vachement dans le morceau et je trouve que ça donne une bonne idée de... Voilà, vous n'avez pas vu la vidéo en écoutant ce podcast, mais vous avez une idée de comment elle s'agite pendant le track. Et moi, j'avoue que j'aime bien cette version parce que je trouve qu'il y a ce... Enfin, je sais pas, la voir interpréter le truc. Moi, à chaque fois, je me dis la voir en concert, ça
non,
doit
être... Non,
mais la
voir en concert, je pense que c'est des shows de ouf, pareil. Ouais. J'avais raté le jour et j'étais en tournage... À cause de Soso, je devais aller à Olaf Grill la voir l'année dernière et finalement j'ai le tournage qui est tombé. Mais énorme inspi en vrai. Ouais. Puis même le perso, tout. J'ai déjà parlé de Nati dans plusieurs interviews, mais c'est une grosse, ouais. C'est une grosse force. Elle est trop forte. Elle est pleine de rêves, pareil. Tu regardes ses clips, ses trucs, et puis elle tient un personnage. Tient un peu de l'image de... qui est connotée normalement hyper péjorativement, d'une manière super sexiste, de la meuf hystérique, alors qu'en fait, dans le mode. Mais, tu vois, cette séquence dans Mafiosa où elle casse les assiettes, des trucs comme ça, elle reprend justement tous ces clichés-là pour. Pour niquer tout le monde en fait.
Ouais, c'est ça. Bah là, c'est pareil. Elle a récemment sorti un nouveau morceau, enfin un nouveau clip qui s'appelle Estas Buenissimo. Mm. Et en fait, c'est pareil. C'est un espèce de clip où elle fait une espèce d'inversement des rôles genrés où c'est elle qui joue une espèce de harceleur de rue avec des refs mi-Michael Jackson, mi-grise parce qu'elle est sapée un peu avec une veste en jean, machin. Il y a des plans de danse chamé où genre le gars il est en train d'avancer solo et il y a les meufs derrière qui avancent je sais pas en moitié en pas chassé là c'est pas en pas chassé mais genre elle passe vraiment derrière lui de manière mi-angoissante mi c'est giga stylé tu vois il y a vraiment un truc et en fait voilà à chaque fois que je regarde ses clips et tout je me dis franchement elle a un univers de ouf et voilà je m'étais dit on va mixer Argentine et tout et on va discuter un peu de ça avec Ambre et du coup je me disais là, tu parlais tout à l'heure de retourner en Argentine. Ouais. Et je me disais, est-ce qu'il y a d'autres artistes argentins avec qui t'aimerais travailler, que t'as en tête, que tu pourrais nous citer, peut-être pour qu'on aille diguer. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse.
Ouais, grave. Il y a un mec un peu fou qui s'appelle Catriel, que j'aime trop, qui est souvent en duo avec un autre mec qui s'appelle Paco Amoroso, mais je suis très sur Catriel.
Okay.
J'aurais envie d'étendre la question à peut-être soit des artistes, mais peut-être aussi des genres musicaux, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'électro, tu vois, de la liberté que ça peut, mais peut-être même dans les... Est-ce qu'il y a des genres musicaux, justement, qui pourraient te parler
Bah, typiquement, en vrai, ouais, par exemple, comme là, on parle de... J'ouvre l'Argentine à l'Amérique latine, mais le reggaeton, typiquement, c'est exactement le créneau dans lequel ça me ferait trop kiffer d'aller, parce que c'est des prods énormes, vu que c'est des artistes inter, tu regardes les Bad Bunny, Ro Alejandro, même Tini en Argentine, par exemple, où c'est des budgets qui sont complètement ouf, mais où, en fait, les artistes, ils vont grave dans la folie aussi, tu vois, Bad Bunny, ces clips, ils sont trop frais, Ro, pareil, de ouf, c'est un style, déjà, qui est assez sexuel, en vrai, qui parle énormément de sexe, de trucs où... Moi, t'as vu, c'est des codes sur lesquels je kiffe trop jouer, j'adore mettre en scène. Mais même dans la SAP, tu vois, typiquement, là, pour le coup, ces mecs-là, il y a un vrai, vrai boulot à faire dans la SAP où ils vont oser même mettre des trucs hyper féminins ou, tu sais, genre... Enfin, féminin, entre guillemets, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Mais oui, où, en fait, tu peux vraiment aller partout fouiller ou est-ce que tu peux mettre de l'art dans quel poste, dans quel... Tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et des gros danseurs aussi, des énormes danseurs. J'aime trop les artistes comme ça, tu vois. Les artistes où vraiment je peux aller faire de la perf, de la danse, comme Nati, et où il y a du charisme derrière, comme Nati, comme Redcar. Ouais, c'est des artistes où t'as grave envie d'aller visuellement, tu peux faire trop de trucs.
Et du coup, sur ton voyage en Argentine, on parlait un peu tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tu te mets dans la photo et ça m'amène... À ton exposition.
Moment promo.
C'est le moment promo. Donc, tu as une expo là, qui a lieu. Donc, c'est du 16 au 20 mars, c'est ça ?
C'est du 16 au 19 au soir.
16 au 19 au soir, ok.
Au Grand Effect, à République.
Ouais. C'est rue Mellet, c'est ça ?
C'est rue Mellet. Ouais. Avec...
À Paris, donc.
À Paris, oui.
C'est ça, en plein cœur.
On est 39 artistes au total. Okay. C'est avec un collectif qui s'appelle le Cercle des Artistes. Et où je présente vraiment là, un travail hyper perso. Où la plupart des œuvres ont été prises là en Argentine parce que du coup j'y suis retournée.
Ouais.
Et j'y étais pas retournée depuis le Covid. Et j'ai revu tous ces gens que j'aimais beaucoup. Et où j'ai essayé de parler un peu de ça, du souvenir qui s'efface, des gens que t'aimes dans ta tête, de tes retrouvailles et du fait de partir. L'imagerie qui s'efface un peu, les couleurs qui restent, qu'est-ce que tu gardes en tête, etc.
Comment t'as fait la sélection des photos, justement ?
J'ai 6 planches. Je dis planches parce que c'est pas des photos uniques. Genre, okay. Je mets un peu de texte dedans. Il y a vraiment un travail où des fois, il y a du montage. Il y a plusieurs photos sur une même planche, etc. Je vais aller un peu plus loin que là où je vais d'habitude. Et c'est pas une démarche de prendre des belles photos, tu vois. C'est vraiment plus une démarche d'essayer de montrer quelque chose. Après, il y a quelques truc hors série aussi pour montrer le plus possible. Mmh. C'est ma première expo. J'ai pas utilisé ma caméra habituelle, ma grosse cam. J'ai vraiment utilisé un tout petit boîtier portatif comme les premiers appareils photo que tu demandais à Noël quand t'avais genre 8 ans. Genre.
Okay.
Un truc que j'ai acheté à 30€ sur le Bon Coin, mais que j'ai appris à maîtriser par cœur. Mais du coup, c'est pas du tout les mêmes outils que ton diaph, ton ISO et ton shutter qu'une caméra habituelle, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, ça collait trop à l'esthétique que je voulais rendre. Et après, la sélection des photos, elle s'est faite en mode, tu sélectionnes, tu vois, je mets un peu de texte, ça, je le rajoute, truc. Mais ça s'est vraiment fait sur la durée, puisque je suis restée 2 mois et demi là-bas. Mmh. Je suis partie en sachant pas du tout ce que j'allais faire. C'est devenu un peu une évidence quand j'ai commencé à prendre les premières photos en mode, qu'est-ce qui sort ? Tu sais, tu te poses, t'as pris des trucs, tu sais pas, tu te poses sur ton ordi. Et petit à petit, j'ai vu celle qui correspondait le plus à l'idée qui se précisait dans ma tête et j'ai travaillé comme ça.
Ok. Donc du coup, ça se passe du 16 au 19 au soir à l'espace Mêlé. Donc je vous mettrai les dates, les infos de l'adresse, etc. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez surtout pas. Et moi, du coup, il y avait un truc, tu vois, genre où tu disais dans le texte de présentation un peu de l'expo, que tu proposais un truc un peu plus perso et un peu plus tourné vers le souvenir. Mmh. Et du coup, je me demandais quelle place avait le souvenir de manière générale dans tes créations et tout. Enfin, en fait, parce que je me suis dit, en vrai, la photo et même la vidéo, c'est une trace du passé, quoi qu'il arrive, quoi. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça avait un impact aussi dans tes création
Du coup, comme on en parlait tout à l'heure, ça dépend si je suis dans une démarche de rendre un produit final pour quelqu'un d'autre ou si je suis dans une démarche de moi-même. Je pense que esthétiquement, quand j'ai commencé à sortir mes premiers clips, j'ai compris après coup que tel ou tel artiste m'avait vraiment influé dans mon travail. Et oui, après, ça a une place hyper importante, je pense. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique, tout ça.
Je pense qu'on a entendu aux deux morceaux que t'as ramenés, en tout cas. Ça peut se deviner.
Oui. Bon, après, t'inquiète, j'adore rire aussi.
On l'a vu aussi.
Mais ouais, en vrai, ça a une place hyper importante. Je suis quelqu'un qu'observe beaucoup. Après, des fois, je pense que les souvenirs aussi, c'est quelque chose qui te marque hyper inconsciemment. Donc, des fois, tu le fais, c'est pas ta faute, entre guillemets, enfin, tu l'as pas cherché. Et puis... tu te rends compte que quand tu regardes en mode je vois d'où ça vient, je vois pourquoi je l'ai fait, voilà.
Vu qu'on parle de photos, tu fais aussi, tu l'as mentionné Louise au début, mais tu fais aussi des covers et des shoots pour des artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vu qu'on a parlé de vidéos et forcément à quel point la musique intervient. Intrinsèquement, elle est liée à la vidéo parce qu'une question de rythmique, tout ça. Comment ça se passe par contre quand tu essayes de faire retranscrire, peut-être, quelle place a la musique quand tu dois les shooter, mais là en image fixe, aussi bien du coup pour une cover, tu vois, l'inspiration, à quel point la musique peut-être influence la.
Mais tu sais que j'ai jamais fait vraiment de cover en mode.
En la réfléchissant.
Comme par exemple en mode. C'est en random, en mode Fifou par exemple, on va l'appeler. Il va avoir tout un travail de prépa à faire sur la cover. Les covers que j'ai eu la chance de faire, c'est parce que sur le moment, ils ont kiffé ma photo et ils ont décidé de la prendre en cover. Les covers de single, c'était parce que j'étais photographe de plateau. Et donc en général, pour faire une cover de single qui va accompagner le clip, on prend quelque chose qui a à voir avec le set du clip. Donc j'avais vraiment réfléchi à ça et c'est ça pour le coup, c'est vraiment un truc que je kifferais grave faire, de la cover d'album etc. J'aimerais trop le faire. Moi, j'étais vraiment au moment où je travaillais avec les artistes sur de la photo plateau, ou alors ça m'est arrivé de travailler avec des artistes en mode ils allaient m'appeler, j'allais être leur photographe récurrente en gros, mais plus lifestyle entre guillemets, comme avec Black, où j'ai travaillé 6 mois avec lui, où je l'ai suivi dans aux Canaries, on est allé en Côte d'Ivoire et où je prenais en photo lifestyle, et du coup vu que je l'accompagnais sur des clips, c'est ce que je te dis, je sortais oui. les covers, mais où j'ai pas fait les covers d'albums, etc. Parce que
factuellement t'es aussi un peu dépendante du visuel, soit qu'a prévu le réal, soit de l'univers dans lequel vous êtes, quoi.
Exactement. Après c'est une des portes d'entrée qui m'ont permis aussi d'aller vers le clip, en plus du making of. Du coup, je ferais plus ça, tu vois. Enfin,
ouais, bien sûr, normal. Ouais.
Là, pour le coup, vu que je suis vraiment passée DA, j'aime bien que la DA sorte un minimum de ma tête. Mais, et du coup, ouais, plus m'orienter vers vraiment les covers d'albums et les visuels premiers. Ça me ferait trop kiffer.
L'appel est passé, n'hésitez pas.
Appelez-moi, vous savez en plus.
Trop bien. On arrive peut-être doucement à la fin, Clément. Est-ce qu'on
Mais j'ai une petite dernière question, ouais, mais vu qu'on parle aussi de réal au sens presque plus large du terme, tu parlais de court-métrage, tu parlais de fiction. J'allais te demander justement, bon, vu quand même notre podcast il parle de musique, quel le rapport t'as à une bande-son de film ? Est-ce que t'en as qui te marquent
Ouais, il y a plein de musiques. Plus avant, c'est marrant. Je sais qu'il y a des bandes son où des fois j'ai écouté les albums qu'elle est avec. Après, c'est vrai que pour moi, une musique de film qui est vraiment très bien faite. Bon, après, tu vas écouter du Hans Zimmer parce que ça s'écoute fluidement et que c'est trop frais. Mais une vraie bande son qui accompagne vraiment, tu l'oublies en fait. Tu l'entends sans l'entendre. Et j'ai pas un énorme non plus rapport avec la musique de film, j'avoue. J'ai déjà grave kiffé des bandes son. Je pense à Into the Wild par exemple. Je me souviens que c'est un album que j'avais archi écouté.
Eddie Vedder.
Ouais.
Je cherchais le nom exactement. Bien vu.
J'ai pas une énorme connaissance. Si, en vrai, les animés, les animations, les musiques des studios Ghibli, je pense un peu comme tout le monde, on a déjà kiffé les écouter un peu en nous endormant, etc. Ou les musiques de pub, quand j'étais petite, j'avais plein de musiques que je découvrais à travers la pub à la télé, ou des fois les bonnes pubs, elles avaient des bonnes musiques.
Ouais. Et ils sont forts là-dessus, ouais. Hein. Je crois que ça l'est toujours, mais je regarde moins la télé, mais...
Bah, c'est... Je ne regarde plus du tout la télé, mais ouais.
Choper les bons tubes, les ouais. bons les morceaux qui vont te rentrer dans la tête, quoi.
Moi, je trouve... moi, en tout cas, je sais qu'un des trucs qui m'a fait rentrer dans la découverte musicale, et tout, c'était les séries.
Ouais.
Les oui, bandes pour originales le coup, de oui. séries, il y avait vachement des trucs.
Les séries, beaucoup plus. Après, ça m'arrive régulièrement, je vais regarder une série en mode... je vais chazamer si je kiffe le son. Mais je peux pas dire que je suis hyper pointue sur...
Puis souvent, c'est pas de la compo...
Ouais, c'est ça.
...originale, quoi. C'est souvent des morceaux ajoutés post-prod, quoi.
Exact.
Ok, non mais... Bah, merci. Manière, ouais, y a pas de mauvaise réponse là-dessus. Hein. Moi, ouais. Je sais que c'est pareil, je suis quelqu'un qui va être sensible à ça, mais pas au point d'être, tu vois... Je regarde pas spécialement les compositeurs, à part si vraiment elle m'a marqué. Mais je sais que, par contre... autour de moi, je vois que j'ai des gens qui sont des malades de ça, tu vois.
Bah, en fait, c'est hyper important. Je sens que... Enfin, tu vois, typiquement, mon film préféré, c'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Donc, la musique hyper importante, de ouf. Elle est reconnaissable.
Ouais, et puis, elle colle énormément à l'esthétique du c'est film, ça. Très présent.
De ouf. Donc, oui, il y a des musiques en mode qui m'ont marqué, que je vais reconnaître, que je tiens dans mon cœur et tout. Mais c'est vrai que c'est pas le truc, en vrai, musicalement, sur lequel je vais être hyper pointu, en mode... il a fait la musique, ça, j'ai pas la plus grosse culture à ce niveau-là.
Voilà. Oui, c'est pas peut-être nécessairement quelque chose sur lequel t'attaches plus d'importance qu'un cadre, qu'une lumière.
Bah c'est hyper important. C'est hyper hyper important la composition d'une musique, mais c'est comme je t'ai dit, si en vrai je suis prise. En fait, pour moi justement, le facteur, c'est que si j'arrive à l'oublier, mais que je sais que le film il m'a traumatisé, ça veut dire que la musique elle était excellente, tu vois.
Et à l'inverse, si la musique elle est trop, presque, si tu la remarques trop, tu te dis tiens, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Parfois, c'est des remarques que je me fais
musique
sur certains
et
films,
son
quoi.
Design. Typiquement, tu vois, la série Dark.
Ouais.
Les basses, au bout d'un moment, ça m'a sorti de la série tellement c'était trop. Ce thème qui revient tout le temps avec. Et en fait, au bout d'un moment, tu l'entends tellement. Bah, que tu te mets à l'entendre, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait.
Et bah, du coup, ça me sort du truc. J'adore la série, hein, mais c'est des petits détails où là, du coup, je vais me dire, ouais, non, ça c'est vrai, ça m'a saoulé. Et pour moi, un thème, par exemple, comme ça qui va revenir, typiquement Twin Peaks, je sais que la série, elle m'a mis dans un mood trop bizarre. Je pourrais pas te citer la musique, mais je sais que l'ambiance sonore de Twin Peaks, elle est essentielle et que du coup, il a archi bien fait son boulot, tu vois. Mais je vais pas écouter la BO de Twin Peaks pour endormir.
Angelo Badalamenti, si je dis pas de bêtises. Oh, wow, je crois que c'est le nom du compositeur.
Le name drop.
T'es hyper chaud.
qui, ouais, qui, je crois qu'il est décédé il y a pas très longtemps.
RIP.
Ouais, bah on approche tranquillement de la fin, ouais. Mais on a quand même toujours une question un petit peu rituelle. Enfin, ouais. En vrai, il reste deux questions. La première, c'est quoi la musique qui te met dans tes émotions?
Même si on a déjà quand même un aperçu.
On a eu un aperçu, je pense, certainement avec Darkseid, par exemple.
Ouais. Qui me met dans mes émotions. Mmh. La dernière musique qui m'a mis dans mes émotions, elle n'est pas sortie. Et c'est la musique d'une amie à moi. Et c'est vraiment pas pour faire de la promo, en vrai, mais à chaque fois que je l'écoute... Elle me fait trop chialer et elle sortira sûrement bientôt. On travaille sur les clips. Mais c'est vraiment pas pour faire de la promo, mais énorme artiste. C'est une artiste, une amie à moi qui s'appelle Céline Desberg, qui joue énormément d'instruments, qui interprète super bien. Et je peux pas encore, je pense, drop le nom de la musique. Je vous le renverrai quand elle sortira, si vous voulez, parce que... Elle est hyper touchante et le texte qui a été écrit par Namia, je le trouve incroyable. Elle est très très triste. Mais du dernier souvenir de vraiment une musique qui a réussi à me mettre autant dans les émotions, c'était ce son-là où je l'avais écouté. Elle l'avait fait une première fois en live à Hôtel Radio et j'étais en mode. Elle l'avait refait. Elle l'a refait plusieurs fois en live et à chaque fois je chiale de ouf. Okay. Trop fort.
Et t'as des musiques doudou un peu comme ça? Par contre, justement, qui sont plus liées à ton suivi, quoi. Où tu sais que quand tu vas l'écouter, instantanément, tu vas te mettre en boule et ça va générer soit, ouais, je sais pas, de la nostalgie, du...
J'en ai plein. Trop de...
Ou un genre, hein, même, ça peut être un genre musical, si tu veux pas trop...
Des musiques doudou, c'est marrant comme question. Il y a un album... qui me fait beaucoup penser à mon enfance, que ma mère écoutait beaucoup, c'est l'album Le Fil de Camille, que j'aime énormément, qui est très nostalgique aussi. Il y a des musiques qui sont très dures, mais à la fois elle a une énorme naïveté dans son interprétation. Et je sais que quand je l'écoute, je l'aime bien, il me remet un peu dans de la nostalgie, mais en même temps il y a des tracks qui sont plus légers, et c'est un album qui m'avait beaucoup touchée. Après, musique vraiment doudou, si tu veux aller dans l'enfantin. J'écoutais beaucoup Emily Jolie quand j'étais petite. qui est trop cool, je trouve, en vrai, quand je le réécoute maintenant. Ouais. J'aime trop le concept, je le trouve trop mignon. Et voilà.
Okay. Ouais, bah c'est super. Bien.
Mockingbird de Eminem pour ramener un peu de rap.
Ok.
Mais voilà.
Super, et ben merci beaucoup, Ambre, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous de m'avoir reçu, c'était trop intéressant.
Merci
de t'être
livré, d'avoir partagé ton parcours et tout, c'était très intéressant. On peut du coup te retrouver sur les réseaux sociaux, on mettra ton compte Insta dans les notes du podcast. Et puis à ton exposition, voilà, si vous êtes sur Paris entre le 16 et le 19 mars, n'hésitez pas, je mets les infos pareil dans la description, comme ça vous pouvez retrouver tout ça. Sans vous perdre. Et puis.
Des clips à venir, du coup, si on comprend bien.
J'ai une sortie le 10 pour Titoff. Et après, là, je reprends. Je reprends les clips un peu plus perso, sans forcément trop de budget. Mais typiquement, le clip pour Céline, là, c'est un truc qu'on. Je pense qu'on va tout faire à la main, mais ça me tient trop à cœur de le clipper. Ouais. Vu à quel point j'aime l'artiste et j'aime le morceau et que je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas permise de le faire l'année dernière. Et j'ai envie de reprendre, justement, les projets un peu comme ça. Où ça va pas du tout être la même esthétique que ce que je fais d'habitude. Après, on continue les gros clips et tout. Pour l'instant, je suis focus sur l'expo. On va voir si ça arrive. Il y a des périodes où il y a plus, il y a des périodes où il y a moins de propositions. Et là, en ce moment, ça va. C'est plus sur mes projets perso, donc je suis grave contente aussi.
Trop bien.
Trop cool. Ouais. Et bien voilà, on arrive doucement à la fin de ce podcast. Je vous rappelle que si vous aimez bien ce podcast, vous pouvez vous abonner, comme ça il tombe directement dans votre application de podcast à chaque sortie. C'est un lundi sur deux. On a régulièrement des personnes comme Ambre qui viennent nous parler de leur rapport à la musique, de leur travail, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On est aussi sur les réseaux sociaux. Et Clément, on a toujours une dernière question. Quand c'est la dernière question, c'est jamais la dernière question. Parce qu'en fait, à la fin de l'épisode, on va mettre un extrait du son que tu vas écouter. C'est quoi le son d'après cet enregistrement? Genre là, si tu sors d'ici.
Quand tu vas sortir d'ici.
Qu'est-ce que tu vas écouter?
Le dernier son que j'ai écouté, que j'ai énormément écouté en boucle, un peu qui m'a eu, c'est un son qui s'appelle Milagrosa de Milo G. Je sais pas de quelle origine, enfin d'où il vient ce mec. Mais il m'a eu, c'était un ami à moi qui l'écoutait beaucoup en Argentine et du coup je le... Je le tue en ce moment.
Ok.
Je vais pas l'écouter.
Parfait, et bah ça conclura du coup notre épisode.
Tout à fait.
On te remercie une nouvelle fois d'être venu.
Merci à vous beaucoup de m'avoir reçu, c'était trop
avec
cool.
Plaisir.
Et puis nous, on se dit à dans deux semaines.
Me capé, mi alma estaba cansada. No tengo futuro, la tiene mi voz. Ahora es el amado, si florece sin nada, yo no sé vos. Fuck that, vi mentira en su cara y mierda su cara.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.